La menthe, la chasse. Encore une bête du midi, d'intérêt au moins égal à celui de la cigale, mais de célébrité bien moindre, parce qu'elle ne fait point de bruit. Si le ciel l'eût gratifié de cymbales, première condition de la popularité, elle éclipserait le renom de la célèbre chanteuse, tant sont étranges et sa forme et ses mœurs. On l'appelle ici Loupregodiao, la bête qui prie Dieu. Son nom officiel est mante religieuse, mantis religiosa. Le langage de la science et le naïf vocabulaire du paysan sont ici d'accord et font de la bizarre créature une pythonisse rendant ses oracles, une ascète en extase mystique. Ô bonnes gens, ô naïvetés enfantines, quelle erreur était la vôtre! Ses airs patenotriers cachent des mœurs atroces, ses bras suppliants sont d'horribles machines de brigandage, ils n'égrènent pas les chapelets, ils exterminent qui passent à leur portée. Par une exception qu'on serait loin de soupçonner dans la série herbivore des orthoptères, la menthe se nourrit exclusivement de proies vivantes. Elle est le tigre des paisibles populations entomologiques, l'ogre en embuscade qui prélève le tribut de chair fraîche. Supposons-lui vigueur suffisante, et ses appétits carnassiers, ses traquenards d'horrible perfection en feraient la terreur des campagnes. Le Pregodiao deviendrait vampire satanique. Le contraste est grand entre l'ensemble du corps, d'aspect très pacifique, et la meurtrière machine des pattes antérieures, si justement qualifiée de ravisseuse. La hanche est d'une longueur et d'une puissance insolites. Son rôle est de lancer en avant le piège à loup qui n'attend pas la victime, mais va la chercher. Un peu de parure embellit le traquenard. À la face interne, la base de la hanche est agrémentée d'une belle tache noire au solide blanc. Quelques rangées de fines perles complètent l'ornementation. La cuisse, plus longue encore et sorte de fuseau déprimé, porte à la face inférieure, sur la moitié d'avant, une double rangée d'épines acérées. La rangée interne en comprend une douzaine, alternativement noire et plus longue, verte et plus courte. Cette alternance des longueurs inégales multiplie les points d'engrenage et favorise l'efficacité de l'arme. La rangée externe est plus simple et n'a que quatre dents. Enfin, trois aiguillons, les plus longs de tous, se dressent en arrière de la double série. Bref, la cuisse est une scie à deux lames parallèles que sépare une gouttière où vient s'engager la jambe repliée. Celle-ci, très mobile sur son articulation avec la cuisse, est également une scie double, à dents plus petites, plus nombreuses et plus serrées que celles de la cuisse. Elle se termine par un robuste croc dont la pointe rivalise d'acuité avec la meilleure aiguille, croc canaliculé en dessous à double lame de couteau ou de serpette. Au repos, le traquenard est plié et redressé contre la poitrine, inoffensif en apparence. Voilà l'insecte qui prie. Mais qu'une proie vienne à passer, et la posture d'oraison brusquement cesse. Soudain déployée, les trois longues pièces de la machine portent au loin le grappin terminal qui harponne, revient en arrière et amène la capture entre les deux scies. L'étau se referme par un mouvement pareil à celui du bras vers l'avant-bras et c'est fini. Criquets, sauterelles et autres plus puissants, une fois saisis dans l'engrenage à quatre rangées de pointes, sont perdus sans ressources. Ni leur trémoussement désespéré, ni leur ruade ne feront lâcher le terrible engin. Impraticable dans la liberté des champs, l'étude suivie des mœurs exige ici l'éducation à domicile. L'entreprise n'a rien de difficile, la menthe est peu soucieuse de son internement sous cloche, à la condition d'être bien nourrie. donnons-lui des vivres de choix, renouvelés tous les jours, et le regret des buissons ne la tourmentera guère. Criquets de toutes espèces, papillons, libellules, grosses mouches, abeilles et autres moyennes captures, voilà ce qu'on rencontre habituellement entre les pattes ravisseuses. Toujours est-il que, dans mes volières, l'audacieuse chasseresse ne recule devant rien. Criquets cendrés et dectiques, épers et truxales, tôt ou tard seront harponnés, immobilisés entre les scies et délicieusement croqués. La chose mérite d'être racontée. À la vue du gros criquet, qui s'est étourdiment approché sur le treillis de la cloche, la mante, secouée d'un soubresaut convulsif, se met soudain en terrifiante posture. Une commotion électrique ne produirait pas effet plus rapide. La transition est si brusque, la mimique si menaçante, que l'observateur novice, sur le champ, hésite, retire la main, inquiet d'un danger inconnu. Si la pensée est ailleurs, je ne peux encore, vieille habituée, me défendre d'une certaine surprise. On a devant soi, à l'improviste, une sorte d'épouvantail de diablotin chassé hors de sa boîte par l'élasticité d'un ressort. Les élytres s'ouvrent, rejetées obliquement de côté, les ailes s'étalent dans toute leur ampleur et se dressent en voile parallèle, en vaste cimier qui domine le dos. Le bout du ventre se convolute en crosse, remonte, puis s'abaisse et se détend par brusques secousses, avec une sorte de souffle, un bruit de pouf, pouf, rappelant celui du dindon qui fait la roue. On dirait des bouffées d'une couleuvre surprise. Fièrement campé sur les quatre pattes postérieures, l'insecte tient son long corsage presque vertical. Les pattes ravisseuses, d'abord ployées et appliquées l'une contre l'autre devant la poitrine, s'ouvrent toutes grandes, se projettent en croix et mettent à découvert les aisselles ornementées de rangées de perles et d'une tache noire à point central blanc. Les deux ocelles, vagues imitations de ceux de la queue du paon, sont, avec les fines bosselures éburnéennes, des joyaux de guerre, tenus secrets en temps habituel. Cela ne s'exhibe de l'écrin qu'au moment de se faire terrible et superbe pour la bataille. Immobile dans son étrange pose, la mante surveille l'acridien, le regard fixé dans sa direction, la tête pivotant un peu à mesure que l'autre se déplace. Le but de cette mimique est évident. La mante veut terroriser, paralyser d'effroi la puissante venaison qui, non démoralisée par l'épouvante, serait trop dangereuse. Y parvient-elle? Sous le crâne luisant du dectique, derrière la longue face du criquet, nul ne sait ce qui se passe. Aucun signe d'émotion ne se révèle à nos regards sur leurs masques impassibles. Il est certain néanmoins que le menacé connaît le danger. Il voit se dresser devant lui un spectre, les crocs en l'air, prêt à s'abattre. Il se sent en face de la mort et il ne fuit pas lorsqu'il est temps encore. Lui qui excelle à bondir et qui si aisément pourrait s'élancer loin des griffes, lui le sauteur aux grosses cuisses, stupidement reste en place ou même s'approche à pas lents. On dit que les petits oiseaux, paralysés de terreur devant la gueule ouverte du serpent, médusés par le regard du reptile, se laissent happer, incapables d'essor. À peu près ainsi se comporte bien des fois l'acridien. Le voici à portée de la fascinatrice. Les deux grappins s'abattent, les griffes harponnent, les doubles scies se referment, en serrent. Vainement le malheureux proteste, ses mandibules mâchent à vide, ses ruades désespérées fouettent l'air. Il faut y passer. La mante replie ses ailes, son étendard de guerre. Elle reprend la pose normale et le repas commence.